France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés, jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, journaliste, éditorialiste et à la tête de la nouvelle revue L'Audace, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine et en particulier aujourd'hui sur les élections municipales dont les listes viennent d'être déposées. Et puis pour le débat, de l'élection à l'évolution. Des milliards d'années pour produire notre extraordinaire biodiversité, une biodiversité dont nous ne mesurons pas la valeur et la fragilité. C'est la thèse de notre invité, l'un de nos grands biologistes, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Il signe « De la biodiversité comme un humanisme » aux éditions du Seuil. Marc-André Sellos est aujourd'hui notre invité pour le débat, mais pour l'instant place au duel.
Le grand face-à-face, Thomas Snegaroff sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
C'est un grand jour Natacha, le numéro 2 de l'Audace sort.
Et oui, lundi. Lundi, en kiosque et en librairie.
La liberté d'expression, qui censure qui avec les poires de...
Les poires du magazine Charivari, enfin du journal Charivari.
Voilà, on est en plein dans la caricature. Merci, et on lira ça avec beaucoup d'intérêt. Et on commence aux États-Unis où la question de la liberté d'expression est souvent au cœur des débats. Semaine contrastée pour Donald Trump, camouflé avec ses droits de douane retoqués par la Cour suprême et autocongratulation lors du discours annuel sur l'état de l'Union. C'était mardi.
Notre avenir sera plus grand, meilleur, plus radieux et plus audacieux. Ce soir, après seulement un an, je peux dire dignement et fièrement que nous avons accompli une transformation sans précédent.
Donald Trump en toute modestie. Pourtant, est-ce anti-Trumpiste, Gilles, de considérer qu'il est dans une mauvaise passe?
Oui, on dit semaine contrastée, l'auto-célébration, on y est habitué, l'élément nouveau est quand même la décision de la Cour suprême. Et on peut avoir le sentiment, au regard de cette décision, mais même au regard de la séquence elle-même, que ce pourrait être le début de la fin.
Attention, on l'a beaucoup dit.
C'est pour ça que j'ai utilisé
le
conditionnel. Mais il y a malgré tout une série de revers. Il y a eu une série de revers dans l'opinion, non seulement l'opinion générale vis-à-vis de Trump, mais vis-à-vis de questions spécifiques de sa politique sur l'économie, sur l'inflation, sur l'immigration. Des élections, Virginie, New Jersey, même le Texas.
Oui.
La décision de la Cour suprême, sur laquelle je vais revenir, les reculs sur le Groenland, à l'extérieur, sur la milice ICE à l'intérieur, les échecs sur, on y en parlera tout à l'heure, sur le plan de paix en Ukraine. Donc, une série de revers, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Et évidemment, en point de mire, les midterms qui finissent par approcher. Mais, à tout le moins, c'est peut-être pas le début de la fin, mais c'est la fin du début.
Mmh.
Bon, ce n'est quand même plus le Trump triomphant des mois qui ont suivi son élection. Il a montré des capacités de rebond. Il y a aussi quelques résultats. Mais on voit ce que pourrait être une deuxième étape du mandat de Trump, laquelle il gouvernerait avec des moyens entravés. Mmh. À la fois les moyens entravés du président dont c'est le dernier mandat et du président entravé parce qu'il aurait, on va voir ce qui se passe à l'automne, parce qu'il aurait perdu sa majorité au Congrès. Donc ça c'est le premier point, début de la fin, fin du début. Et puis un mot quand même sur la décision de la Cour suprême. Non pas sur ses effets économiques, mais sur ses effets juridiques, parce que dans les décisions des cours suprêmes, elles s'appuient parfois sur les déclarations des droits, sur les valeurs,
oui.
Là, c'est sur le rôle premier des cours suprêmes et des cours constitutionnels qui est sur la répartition des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. C'est là-dessus que Donald Trump a été censuré. Il a réagi, comme d'habitude, avec une extrême virulence, mettant en cause à la fois la stupidité et la malhonnêteté des juges. Il a contourner la décision, mais il a été obligé de s'y plier. Et je termine par là, il y a un prolongement français à cette décision. Parce que quand on regarde le programme à la fois du Rassemblement National et même maintenant celui de Bruno Retailleau, on peut se trouver exactement dans la même situation dans quelques mois, c'est-à-dire d'un Conseil constitutionnel qui censurerait, mais cette fois-ci pas a posteriori comme c'est le cas aux États-Unis, mais a priori comme c'est le cas en France, la volonté d'un président de la République, par hypothèse nouvellement élu, de convoquer un référendum pour réviser la Constitution. Et là, la question se pose, et ça m'intéresserait que cette question soit posée à Bruno Retailleau, à Jordan Bardella, à Marine Le Pen, de savoir ce qu'ils feraient dans ce cas de figure, parce qu'on est exactement dans le cas américain.
C'est un cas qui engage ce qu'on appelle l'état de droit, avec les contre-pouvoirs, avec les garde-fous. On avait beaucoup dit que Donald Trump les prenait de vitesse, et c'est vrai qu'il les a pris de vitesse, mais finalement, le système aussi fonctionne. Et on a vu, pour une Cour suprême, pourtant à la botte de Donald Trump, que sur cette question des droits de douane, ben, il a été retoqué.
En effet, et le sujet est extrêmement intéressant. Pour commencer sur le discours de Donald Trump, ce qui m'a frappé, c'est évidemment qu'on a la continuité de la posture de Donald Trump, c'est-à-dire qu'il ne lâche rien. On a donc des mensonges, on a donc une espèce de spectacle de l'autosatisfaction et de la méthode Coué. Puisqu'on pourrait dresser la liste des faux chiffres qu'il sort, c'est particulièrement frappant sur les questions économiques, chiffres de l'inflation qu'il diminue volontairement, chiffres des investissements qu'il gonfle volontairement, chiffres des prix du carburant qu'il diminue volontairement, enfin bref, la liste est longue comme le bras. Mais surtout, on a l'impression d'une mécanique, en effet, qui tourne un petit peu à vide. C'est-à-dire que la question qui va se poser dans les semaines qui viennent, puis avec les mid-termes, c'est est-ce que le mensonge, les vérités alternatives vont continuer à suffire ? Là-dessus vient s'ajouter cette dimension, à mon avis, la plus importante, à savoir le fait que nous constatons donc que il existe encore des contre-pouvoirs aux États-Unis, que ces contre-pouvoirs sont efficaces. Sur les derniers mandats, les élections des midterms ont toujours été perdues par les présidents en place. À ceci près qu'il va falloir observer ça de façon extrêmement précise, parce que, en effet, jusqu'à présent, on a toujours eu l'impression que les institutions démocratiques américaines allaient tenir face à Donald Trump et on a été effarés de les voir fragilisés et ébranlés. Donc, on remarque que Donald Trump a commencé déjà à installer un discours de contestation des élections par avance. Il a mené un redécoupage dans certains districts. Bref, une politique extrêmement dangereuse. Donc, et l'impression qu'il donne dans ce discours, c'est de préparer justement cette mise en œuvre d'un refus du résultat électoral. Bref, je pense que tout va se jouer là dans les semaines qui viennent. Pour terminer sur l'ouverture que faisait Gilles sur le parallèle avec la France. Je trouverais un peu problématique de dresser ce parallèle. Pourquoi ? Parce que la question d'une potentielle révision constitutionnelle ou par référendum en France pose la question de la possibilité de faire appliquer des politiques et sur
après
des sujets...
Campagne, oui.
Voilà, c'est-à-dire... J'en reviens toujours là, nous n'avons pas la même position avec Gilles. Je crains pour ma part que l'équilibre entre état de droit et souveraineté populaire ait été un peu trop abîmé et je crois profondément que c'est ça qui pave la route d'un personnage comme Donald Trump. Et donc je pense qu'une révision constitutionnelle pour pouvoir faire un référendum sur l'immigration poserait un problème. En revanche, les tentations qu'on voit naître en France d'empêcher toute révision constitutionnelle par référendum, la façon dont on a vu, par exemple, les sénateurs socialistes tenter de faire passer, presque en catimini, une loi pour justement essayer de bloquer tout cela, me semble particulièrement problématique.
Gilles, comment vous entendez ce que dit Natacha sur le danger en fait que constituerait une espèce d'érection en majesté de l'état de droit qui irait à l'encontre du désir et du vote des Français?
Alors, je reviens un mot sur les États-Unis. Donald Trump a multiplié depuis des années les mensonges, mais souvent il était en phase avec le ressenti des Américains.
Oui, oui.
Ce qui est très intéressant, c'est que sur l'inflation, sur les carburants, il ment, mais il est en décalage par rapport au ressenti.
Ça, les gens s'en rendent bien. C'est même plus du ressenti, là.
Quand on dit aux gens... qu'ils vivent, et voilà.
Bon. Et combien vous avez payé l'essence, là,
Et c'est son grand talon d'Achille pour les élections qui viennent.
Alors, sur l'état de droit.
Alors, sur l'état de droit.
Et la démocratie.
C'est pas une question de souveraineté populaire, en l'occurrence. C'est une question de respect de la Constitution. La souveraineté populaire, c'est elle qui a introduit, qui a voté cette Constitution. Et cette Constitution, elle peut pas être plus limpide sur la procédure pour réviser cette Constitution. Et donc, il n'est pas question d'interdire, de ne pas donner le dernier mot au peuple si le peuple français veut modifier la Constitution et même introduire la préférence nationale. Je le regretterai infiniment, mais c'est le pouvoir souverain du peuple. La question est de savoir quelle est la procédure qui est suivie pour le faire. Et c'est là où ce qui est proposé aussi bien par Bruno Retailleau que par Marine Le Pen et Jordan Bardella est, de manière, je crois, manifeste, contraire à la Constitution. Et c'est donc pas la possibilité de réviser la Constitution qui pose problème, c'est la manière dont ils le font. Et c'est une différence qui est une différence fondamentale. Et c'est ce en quoi le parallèle avec Donald Trump et avec ce qui vient, et la décision de la Cour suprême, je crois, est pertinent.
Alors, il faudrait qu'on ait plus longuement ce débat pour plusieurs raisons. D'abord parce que la façon dont petit à petit la Constitution a été modifiée, tordu parfois, a impliqué, selon moi, un déséquilibre.
C'est
et le fait
initial,
qu'il
là,
devient
hein.
plus... Oui, mais je veux dire, dans la mesure où le reste de la Constitution implique désormais des blocages, il faut savoir comment on lève ces blocages et comment on fait en sorte de sortir d'une situation dans laquelle certaines politiques ne peuvent pas être menées. Et encore une fois, je n'adhère absolument pas à la volonté du Rassemblement National ou de Bruno Retailleau de changer la Constitution pour pouvoir mener leur politique migratoire. Ce n'est pas ça la question. Je m'interroge sur l'équilibre des pouvoirs en France et sur notamment la hiérarchie des normes, la façon dont on permet à la souveraineté populaire de s'exprimer. Mais encore une fois, le débat est long, il mériterait de rentrer dans les détails des différents articles de la Constitution.
Non, encore un mot sur l'argument au fond de Natacha, qui est de dire, attention, si on continue de résister au désir populaire par la Constitution, alors ça peut sembler étrange formulé comme ça, mais ça pave, c'est le mot que vous avez employé, ça pave les Donald Trump de demain, ici comme ailleurs, avec cette frustration populaire qui pourrait être née d'un vote qui n'aurait pas de conséquences au niveau des lois, au niveau des décisions politiques. Comment vous l'entendez ça, Gilles ?
La Constitution de la Ve République a été révisée plus d'une vingtaine de fois. Depuis son adoption. Il n'y a aucune impossibilité, aucun blocage, dès lors qu'on a une majorité à l'Assemblée et au Sénat pour le faire. D'une certaine manière, c'est aux États-Unis que la question se pose. Aux États-Unis, depuis 40 ans, il n'y a pas eu une révision du texte fondateur. Ce n'est pas du tout le cas en France.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Today, we must be just as...
Aujourd'hui, nous devons être déterminés et forts, exactement comme nous l'étions quand l'invasion a commencé. Il est important pour nous d'avoir une date claire de notre accession à l'Union européenne. Et ce n'est pas un vœu en l'air, c'est comprendre comment Poutine agira. S'il n'y a pas de date, pas de garantie claire, il trouvera le moyen de bloquer l'adhésion de l'Ukraine pour des décennies en vous divisant, en divisant l'Europe. S'il vous plaît, continuez à défendre le mode de vie européen.
Slava Ukraini. Volodymyr Zelensky, président ukrainien, qui remercie l'Europe, mais qui se projette aussi sur une entrée de son pays dans l'Union européenne. 4 ans de guerre cette semaine, un 4e hiver, Natacha. L'Europe doit-elle faire plus ? Peut-elle faire plus ?
Alors, le premier point, c'est de se demander ce qu'ont donné ces 4 années de guerre, sur quoi est-ce que ça aboutit. Nous en parlons donc depuis 4 ans dans cette émission, et le bouleversement de l'ordre mondial n'aura échappé à personne. Simplement, derrière le bilan absolument monstrueux, derrière la guerre d'attrition qui est menée, ce qu'on peut constater, c'est un blocage qui est absolument tragique pour l'Ukraine, et c'est pour l'Europe un discours extrêmement ambivalent et une réalité elle-même ambivalente. On peut se réjouir que cette situation dramatique ait incité les Européens à tout simplement prendre en compte le réel et à enfin comprendre que le monde tel qu'ils le voyaient n'existe plus, ou voire n'a jamais existé. On peut se réjouir de l'augmentation des dépenses militaires qui laisse penser que les Européens ont envie de se défendre et ne croient plus que le doux commerce va apaiser par nature les relations.
Ou que le parapluie américain sera toujours ouvert.
Alors, c'est justement, j'y viens. La question est de savoir si réellement, concrètement, il y a eu des évolutions, si réellement, concrètement, l'Union européenne, au bout de 4 années de guerre, a fait évoluer sa doctrine. Or, on s'aperçoit, et c'est ça qui me tracasse, que les pays européens sont en train d'amplifier leurs divergences. C'est-à-dire que sous couvert de se rassembler face à un ennemi qui est censé être un ennemi existentiel, qui voudrait la destruction de l'Europe, discours qui est en fait un discours qui simplifie beaucoup les choses et qui permet de galvaniser les foules. Mais derrière, on s'aperçoit à quel point l'Allemagne est en train de mener une politique pour le moins dangereuse, à la fois politique de cavalier seul, de maintien de la dépendance aux États-Unis et de préparation de nouveaux liens avec la Russie si son intérêt le demande une fois que un cessez-le-feu sera intervenu. Bref, je ne suis pas certaine que ça augure de lendemain qui chante. Donc, il me semble que le constat qu'on peut faire, c'est le fait que la vision que la France a de l'indépendance de l'Europe n'est pas suffisamment partagée. Et que l'affaiblissement de la France en Europe fait que nous sommes incapables de convaincre nos partenaires européens de la nécessité de réellement concevoir une Europe indépendante.
Ça, c'est ce qu'a révélé, à écouter Natacha, 4 ans de conflit en Ukraine, ce retour du réel et ces divisions européennes, si je résume un peu votre pensée. Mais cette question, l'Europe doit-elle faire plus et peut-elle faire plus ? Cette question, je vous la pose aussi à vous, Gilles.
L'Europe doit faire plus, l'Europe peut faire plus, mais l'Europe fait déjà beaucoup plus. Natacha a parlé de blocage. C'est vrai que la première grille de lecture qu'on peut avoir au bout de 4 ans de guerre, c'est celle d'une impasse, tout simplement. Et même d'une double impasse, c'est-à-dire qu'à la fois d'une impasse militaire, il y a maintenant une guerre qui se poursuit et qui ne change rien. Il y a une forme de statu quo territorial où, en fait, sur les 20% de territoires ukrainiens conquis par l'armée russe, la majorité l'a été en 2014, en Crimée. Puis, un deuxième gros bout
au tout début
de la guerre. Depuis, c'est aux alentours de 1% du territoire ukrainien.
Donc, il y a un petit côté de la guerre de mouvement à la guerre de position.
Voilà, c'est un Verdun 2.0. Ouais. C'est le Verdun avec les drones, mais il ne se passe rien. Statu quo territorial, avec un coût humain économique absolument considérable. Et puis, impasse politique, puisque le plan de Donald Trump, je l'ai évoqué tout à l'heure, a échoué. Donc, on peut avoir ce sentiment d'une guerre sans fin. Le retour des contacts que j'ai eus en Ukraine à l'occasion de ce 4e anniversaire, il y a quand même un changement de climat, une petite inflexion plus positive. D'abord parce que les Européens ont résisté. Je reviendrai sur ce que disait Natacha sur la division, mais ils ont résisté, ils ont été fermes d'un point de vue diplomatique et ils ont obligé Donald Trump à bouger. Et ils ont été, pour une fois, assez cohérents d'un point de vue financier, c'est-à-dire qu'ils ont, pour l'essentiel, remplacé l'aide américaine. Et aujourd'hui, l'effort de guerre en Ukraine est financé à 100% par les États européens.
D'où le remerciement de Zelensky qu'on entendait il y a un instant.
Deuxièmement, les États-Unis n'ont pas lâché l'Ukraine. Ils ont voulu l'humilier, ils ont voulu la contraindre, ils ont réduit, ils ont même supprimé l'aide, mais ils vendent aux Européens les armes que vont utiliser les Ukrainiens, et surtout, ils continuent à fournir des renseignements. Enfin, l'Ukraine a rebondi, elle a aujourd'hui une redoutable industrie de guerre, notamment dans ce qui est la guerre d'aujourd'hui, qui est la guerre des drones, et puis la Russie souffre. Et donc, je trouve qu'il y a quand même des choses qui bougent. Je termine de deux phrases. L'opinion américaine ne s'est pas trumpisée, elle ne suit pas Trump sur la, je l'ai dit sur un certain nombre d'autres questions, mais y compris sur la question ukrainienne, et l'opinion européenne ne s'est pas poutinisée. Je suis très frappé, j'ai analysé dans le détail le dernier Eurobaromètre. Il y a, je ne sais pas s'il y a un peuple européen qui se dégage, mais en tout cas, il y a une majorité nette de citoyens européens qui pensent la même chose et qui veulent que l'Europe continue de soutenir. Et non seulement il y a une majorité du peuple européen, mais quand on regarde État par État, il y a une immense majorité de pays dans lesquels il y a une majorité aussi dans cette direction-là.
Natacha, un mot ?
En un mot, oui, on peut se réjouir de ça. En effet, les Européens continuent à considérer et considèrent de plus en plus qu'ils doivent se penser comme une civilisation qui doit se défendre face à des prédateurs. En revanche, premier point, oui, l'économie russe souffre, croissance russe 1% après deux années à 4%, enfin, toutes les données montrent cela. En revanche, l'économie européenne souffre aussi, et puisque la citation de Volodymyr Zelensky évoquait l'entrée rapide de l'Ukraine en Europe, l'économie, des pans entiers de l'économie européenne risquent de souffrir encore plus de cette entrée de l'Ukraine dans l'Europe. Il y a cette semaine le salon de l'agriculture, les agriculteurs en savent quelque chose. Ça veut dire que tout cela, en fait, n'est pas préparé, n'est pas pensé, et que les Européens subissent. Alors, ils sont dignement, ils aident, en effet, c'est eux qui aident, c'est eux qui payent. Ils continueront à payer. Le problème, c'est d'éviter que ça ne leur coûte suffisamment cher pour déstabiliser les pays européens.
Alors, il y a aujourd'hui en Europe ce qu'on appelle la capacité d'intégration. Donc, Bruxelles a et les États européens ont la capacité de dire on peut ou pas intégrer un nouveau membre sans détruire notre économie. Ça, c'est quelque chose qui a quelques décennies, mais qui est assez récent dans l'histoire de la construction européenne, où effectivement, par le passé, on intégrait des pays qui étaient très, très, très loin des standards européens. Théoriquement, c'est plus le cas aujourd'hui.
Oui, mais la France n'a pas fait jouer sa clause de sauvegarde, contrairement à la Pologne, sur l'entrée sans droit de douane de certains produits agricoles.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
On touche du bois parce que ça se passe pas trop mal. Après, on a des contrats de maintenance sur ce type de machine. En cas de problème, on est l'intervention d'un technicien sous maximum 4 heures. Hier, j'ai arrêté à minuit et demi, j'ai repris à 6 heures ce matin. Je me suis juste arrêté deux fois une demi-heure pour me nourrir. Là, on a du LFI, un autre candidat indépendant. Là, on a un tract d'un candidat RN-UDR. On a un peu de tout.
Je vous ai vu froncer les sourcils, Gilles, que c'était quoi ? De quoi parlait cet imprimeur ? Évidemment, des bulletins de vote pour les municipales. Elles se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars prochains, c'est demain, autrement dit. Jeudi, c'était avant-hier la date limite pour le dépôt des listes des candidats. On n'en a pas encore vraiment parlé au grand face-à-face, on va en parler, mais assez peu, puisque le 15 et le 22, on n'aura pas le droit de parler de politique sur l'antenne, et donc on fera des émissions plutôt internationales ou de société dans le grand face-à-face. Mais quels sont les grands enjeux, Gilles, rapidement, de ce scrutin local ?
Non, on peut avoir un sentiment étrange que ce sont des élections très importantes qui sont largement enjambées. Elles sont enjambées par les médias, je ne parle pas que du grand face-à-face, on en parle peu, et quand on parle beaucoup du deuxième tour avant le premier, donc ça c'est le premier enjambement. Elle est enjambée par les électeurs. Quand je suis très frappé, quand on regarde la hiérarchie des préoccupations dans les enquêtes qui sont faites dans chacune des villes, on voit que ce sont des préoccupations nationales, des préoccupations d'élections présidentielles qui dominent et pas des préoccupations municipales, des compétences municipales, et même par les acteurs. Édouard Philippe est candidat au Havre, mais on voit que c'est une candidature presque comme un droit d'entrée ou de sortie pour la prochaine présidentielle.
Oui, de sortie parce que ça ne va pas être facile.
Bruno Retailleau, qui est chef du parti le plus implanté, qui déclare sa propre candidature à l'élection présidentielle à 3 semaines des élections municipales. Donc tout ça donne ce sentiment d'enjambement. Pourtant, il y a des enseignements, et il y aura des enseignements à tirer. Il y aura des enseignements démocratiques qu'on va pouvoir tirer très vite, dans quelques jours. Déjà, de savoir combien de listes et combien de candidats vont se présenter à ces élections. On avait eu 900 000 candidats en 2020, c'est ce miracle français dont je parle régulièrement. J'entends beaucoup de difficultés sur le terrain dans la constitution des listes, donc on va voir ce qu'il en est une fois qu'on aura recollé le dépôt des listes de jeudi. Enjeu enseignement démocratique, les 15 et 22 mars, sur le taux de participation. On a ce paradoxe d'une figure du maire qui est la figure positive, en qui on a confiance, d'un intérêt pour ces élections, mais d'une baisse de la participation élection après élection. Est-ce qu'on va être dans le cru de 2020, participation très faible, période Covid, 45%, ou dans un cru de 2014, 65%? Donc là, on va voir ça. Et puis il y a des enseignements politiques, je termine par là. Pour les municipales, le risque, la tentation, c'est d'en tirer un enseignement politique immédiat le soir du scrutin, de regarder ce qui va se passer dans les métropoles, alors évidemment Paris, Lyon, Marseille, etc. Le problème, c'est que cette analyse est largement faussée, parce que 60% des Français vivent dans des communes de moins de 10 000 habitants, que 15% seulement vivent dans les villes de plus de 100 000, qui n'ont pas la même sociologie, qui ne votent pas de la même manière, et ça peut produire des grosses erreurs d'analyse. Ça s'était passé en 2001, la gauche avait gagné Paris, la gauche avait gagné Lyon, la gauche avait gagné Dijon, les socialistes disaient on a gagné les élections municipales. En réalité, quand on regardait dans les villes moyennes, eh bien, ces élections avaient été un signal d'alerte. Donc, il y aura des leçons à tirer pour les municipales, et puis il y en aura aussi quand même pour l'élection présidentielle à venir.
Oui, parce que l'un des enjeux, Natacha, ça sera effectivement de voir s'il y a une vague RN, notamment dans des villes moyennes et grandes, et s'il y a une sanction ou pas envers LFI, largement ostracisé par une grande partie de la classe politique après les événements de Lyon.
Oui, parmi les enjeux, on va dire, nationaux, qui traitent du champ politique en général, il y aura tout cela. Il y aura la question de la résilience du Parti Socialiste, justement, et des alliances à géométrie variable avec LFI, et de la façon dont tout cela risque de se payer pour un parti qui reste quand même implanté territorialement, ce qui est à peu près tout ce qui lui reste. Donc, bien sûr qu'il y aura ces enjeux-là, et de même, même si, en effet, le prisme des métropoles est un prisme très mauvais pour comprendre la France, il y aura quand même une lecture à opérer. Les élections de 2020 avaient donné une vague écolo dans les grandes métropoles. Est-ce que c'était dû à la faible participation ou est-ce que ça va continuer? Voilà, ça fait partie des enjeux qu'on peut lire. Mais derrière, il faudrait profiter de ces élections municipales pour bien comprendre, en effet, que les chiffres que citait Gilles sur la répartition territoriale des Français doivent normalement nous inciter à regarder totalement différemment la structure du pays. Et le problème que nous avons, c'est que ces élections municipales devraient normalement constituer le premier pilier de la démocratie locale qui ensuite remonte vers la démocratie, je dirais, nationale. Or, tout cela a été largement abîmé parce qu'il y a eu de toute façon des politiques assez délétères. Je ne citerai que la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, la loi MAPTAM de 2014, qui a amplifié les déséquilibres du pays en renforçant justement cette métropolisation et donc cet assèchement des territoires. Bref, derrière ces élections, il y a en fait à revoir totalement notre conception du rôle de la puissance publique, du rôle de l'État par rapport aux différentes strates administratives, aux collectivités et la façon dont on rend aux citoyens la possibilité d'exprimer leur voix et de s'impliquer dans leur territoire.
S'implanter territorialement, ça marche en politique, ça marche aussi largement en biodiversité. Allez, place au débat.
Le grand face-à-face, Le débat.
Bonjour Marc-André Sellos.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'un de nos grands biologistes, grand spécialiste du vivant, des sols, des champignons aussi, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, et vous signez ce petit texte percutant aux éditions du Seuil, son titre « De la biodiversité comme un humanisme », titre curieux pour ceux qui opposeraient l'homme à la nature, ce qui n'est pas vraiment votre style. On va creuser ces liens, ce que l'on doit faire pour ne pas le perdre, ce lien, et ce qui entraîne notre perte à nous tous humains si nous oublions ce qui nous entoure et ce qu'il y a parfois sous nos pieds. Mais je vous propose de commencer avec un extrait sonore pris dans notre actualité. Laurent Duplomb était chez nos confrères de RTL il y a 2 semaines. Le sénateur venait justifier sa demande de réintroduction de 2 pesticides, une loi qui avait été pourtant censurée par le Conseil constitutionnel en août dernier.
En fait, la réalité, c'est qu'il ne faut pas tordre la vérité. L'agence européenne, elle autorise l'acétamipride parce qu'aucune étude sérieuse ne démontre que l'acétamipride est cancérigène. Et je vais même vous dire mieux. L'année 2025, pendant que le débat se passait en France, pendant que les Français, à juste titre, parce que les messages anxiogènes et la peur leur aient signé des pétitions, l'EFSA, la Commission européenne et le Parlement ont accepté de relever le seuil de limite maximum de résidus, c'est-à-dire les résidus que vous autorisez à l'intérieur d'un produit, tel que le miel, de 20 fois la dose qui était prescrite auparavant. C'est-à-dire qu'on accepte que le miel qui vienne d'autres pays puisse contenir 20 fois plus d'acétamipride qu'en mars 2025, en octobre 2025. C'est ça la réalité, et chez nous, on a encore ce débat-là.
Marc-André Sellos, pourquoi ça vous met à ce point en colère, ce qu'on vient d'entendre, là où certains entendraient sûrement des arguments de bon sens?
Moi, j'entends pas de la science, là. Ce que j'entends, c'est des blablas sur des réglementations qu'on peut toujours refaire et qui sont éventuellement de vrais problèmes. Mais ce que je n'entends pas, c'est que l'acétamipride est un neurotoxique puissant et aussi un écotoxique. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça tue les insectes. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, 30 à 60% des écosystèmes agricoles sont limités par la quantité de pollinisateurs. Quand vous faites des cassis en Bourgogne, si vous réintroduisez, si vous élevez, alors vous êtes maintenant obligé de les payer, hein, des osmies qui sont des petits pollinisateurs du cassissier, vous pouvez augmenter votre production de 20 à 400%. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les pesticides que vous mettez, ce n'est pas les engrais que vous mettez qui sont limitants, c'est la capacité à polliniser les fleurs pour obtenir les fruits. En fait, quelque part, je suis souvent en colère contre le sénateur Duplomb parce qu'il nous empêche, il a choisi quelques propos, mais il nous empêche de voir à quel point un certain nombre de nos gestes sont dangereux en rétablissant, et la loi est signée, l'installation des élevages intensifs. Vous détruisez, par les marées vertes, les écosystèmes littoraux, vous détruisez la biodiversité qui les habite et qui fait quoi? Qui fait des coquillages. Vous pétez la conchyliculture. Vous détruisez cette biodiversité qui construit les littoraux et les plages sur lesquelles vous voulez faire des vacances. Vous pétez l'industrie touristique. En réalité, vous ne tenez pas en compte, vous ne prenez pas en compte la biodiversité comme un outil. Et j'aimerais aller plus loin, parce que là, je voudrais me révolter. On me pose toujours ces questions, voilà qu'est-ce que je pense du sénateur Duplomb. Je m'en fous. Ce que je veux vous dire, moi, c'est qu'il existe aujourd'hui des façons de faire l'agriculture avec de la biodiversité. Vous mettez des haies, et ça fait 80% de maladies qui se transmettent en moins d'un champ sur l'autre. Et puis ça stocke du carbone, c'est bon pour le climat, 100 tonnes de carbone par kilomètre. Vous faites des cultures mélangées. Vous faites des cultures mélangées en faisant une bande de roche et une bande de betteraves, tiens, par exemple. Ça repousse les pucerons qui rendent malades les betteraves. Et quand vous faites des cultures mélangées, vous pouvez produire 40% de biomasse en plus. Vous avez une réduction de la propagation des maladies de 30% et vous augmentez la marge brute d'exploitation, pour parler de fric, de 30%. Moi, je veux parler du positif. Et dans ce livre, moi, l'humanisme, c'est une valeur forte. Et je veux mettre au service de l'humain la biodiversité. Je ne veux plus qu'on me parle des gens qui capturent l'agenda de l'humanisme pour des idéologies qui ne sont même pas fondées sur de la science, comme vous en parliez précédemment à propos du trumpisme.
On va y revenir, mais c'est intéressant, vous avez parlé du tourisme, de fric. Ça me rappelle un peu Raymond Aron, qui dans les années 1950 écrivait dans le Figaro toute la détestation qu'il avait de la guerre d'Algérie et qui désirait l'indépendance de l'Algérie. Et il a dit au bout d'un moment, en fait, si je dis à mes lecteurs, du Figaro que l'Algérie française, c'est mieux pour une question morale, ça marchera pas. Il faut que je leur parle d'argent. Il faut que je leur dise que l'Algérie, ça coûte cher à la France. Est-ce que vous faites la même chose là? À savoir, vous dites, les gens qui m'écoutent, peut-être ils s'en foutent de la biodiversité, il faut que je leur parle du fric et du tourisme. C'est peut-être comme ça qu'on pourra gagner la bataille.
Alors, je vois que vous avez lu le livre. C'est toute l'idée. C'est qu'en ayant posé la valeur morale de la biodiversité, on n'a rien fait. Mais il faut comprendre que l'humanité est fleur de biodiversité. Elle fleurit dans la biodiversité. Regardez, je suis venu en costard-cravate. J'ai le vert à soie de ma cravate, j'ai le coton de ma chemise, j'ai le mouton de ma veste et le bœuf de ma ceinture.
Et vous nous montrez
dire, bon, moi je préfère le synthétique. Oui, mais le synthétique, ça vient du pétrole, ça vient d'une biodiversité fossile. Vous êtes pavé de biodiversité, ouvrez votre frigo, vous verrez, et ouvrez vos entrailles, vous verrez que vous êtes construit sur des écosystèmes microbiens, les fameux microbiotes, qui construisent votre santé. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est bien comprendre que nous sommes nés dans la biodiversité et que c'est en la maintenant que nous pouvons vivre mieux demain et transmettre un monde fonctionnel à nos enfants. On peut toujours imaginer de mettre des drones à la place des pollinisateurs, mais oui, l'idée est là. Et en plus, vous savez quoi ? Les municipales approchent. Or, la biodiversité, c'est local. Si vous en prenez compte, si vous la prenez en compte, et si vous avez des façons, par exemple, de faire l'agriculture, ou même de construire vos villes, parce que je ne veux pas faire que de l'agribashing ici, qui tiennent compte de la biodiversité, vous allez l'améliorer localement et vous serez propriétaire du résultat. Si vous émettez moins de CO2, c'est les Indiens et les Chinois qui vont décider de ce qui va se passer quant au CO2 dans l'atmosphère. Vous n'êtes pas propriétaire des gestes vertueux que vous faites. Sur la biodiversité, vous améliorez votre cadre de vie et vous transmettez à vos enfants, si vous aimez vos enfants, c'est ça l'humanisme. C'est croire en l'homme et travailler, en l'humain, pardon, et travailler pour l'humain. Eh bien, vous êtes propriétaire du résultat. Est-ce que l'équipe municipale pour laquelle vous allez voter a entrepris d'avoir une fourniture d'alimentation dans les écoles, par exemple, basée sur du local bio ? Est-ce que elle a un programme par rapport au verdissement de la ville et aux fonctions écologiques, pour la santé morale notamment et la santé intellectuelle des habitants, de la verdure en ville. Et vous voyez, c'est une vraie question politique et géopolitique d'ailleurs aussi, parce que pour le coup, notre souveraineté alimentaire, c'est de ça dont on parle.
Et une question systémique, c'est en ça qu'on apprécie aussi votre travail, la mise en relation de choses qui semblent éloignées les unes des autres. Vous nous dites que tout fait système et que l'homme est au cœur de ce système. Il n'est pas au-dessus de ce système, il est au cœur de ce système.
Alors qu'il se voit dans un système géopolitique, oui, ou économique ou social, il est avant tout. Et il a toujours été, avant même d'être dans un tissu social ou géopolitique, dans un tissu écologique, écosystémique.
Natacha.
Alors pour commencer, moi j'aimerais que vous nous parliez, comme vous en parlez dans le livre, de ce qu'il y a de plus petit, de plus minuscule et que nous ne voyons pas, les ferments, les bactéries. Parce que j'ai plusieurs fois dans mes voyages en France assisté à des choses très spécifiques. Par exemple, personne ne sait que le lait aujourd'hui, le lait cru, contient beaucoup moins de ferments qu'il y a un siècle, parce que en fait l'herbe même que broutent les vaches n'est plus la même. Et j'ai déjà vu, et c'est un souvenir qui m'a marqué, un producteur de Pont-l'Évêque au lait cru, un des derniers producteurs de Pont-l'Évêque au lait cru fermier, pleurait parce que il avait perdu son ferment indigène et que les normes hygiéniques qui nécessitent de nettoyer de transformer une ferme en laboratoire avaient détruit ce qui permettait à son fromage d'être spécifique. Vous parlez de tout cela. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs en quoi la diminution de ces éléments que l'on ne voit pas, dont on ne soupçonne pas l'existence, change énormément pour nous ?
Marc-André Sellos.
Alors, la biodiversité, elle est largement invisible parce qu'elle est surtout microbienne. Et vous-même, que je vois autour de moi, là, on pourrait penser qu'on est quatre humains dans cette salle. Ben, c'est pas vrai. Il y a entre 10 et 15 000 espèces de bactéries et de champignons qui sont sur votre peau, dans votre tube digestif.
Mais il y a quand même quatre humains. Il n'y a pas quatre vivants, mais il y a quatre...
Oui, c'est peu de choses par rapport aux dizaines de milliers de milliards de microbes qui nous habitent. Or, ils nous fabriquent. Et aujourd'hui, c'est vrai que nos gestes de consommation, le fait de manger des choses avec des émulsifiants, des conservateurs, de ne pas manger assez de fibres, dont la diversité, tiens, la diversité des fibres et des végétaux qu'on mange, ça entretient la diversité de microbes dans le tube digestif, cette réduction de biodiversité, c'est une des portes d'entrée, c'est une des choses qui fait que l'humanité devient plus prompte à passer dans les problèmes métaboliques comme le diabète, l'obésité, des problèmes de système immunitaire comme l'asthme, l'allergie ou les maladies auto-immunes comme la maladie de Crohn ou la sclérose en plaques, ou encore même des troubles neurologiques, Parkinson, Alzheimer, burn-out aigu. Tout ça, c'est des choses qui sont favorisées par le fait qu'on n'a plus ces microbes dont la présence nous aide à fonctionner. Donc le premier microbiote, comme on l'appelle, cette diversité microbienne. Et je vous rappelle que moi, c'est 5 à 10 000 espèces de microbes qui m'habitent. Autant de cellules de microbes que de cellules humaines. Et ils contribue à entretenir le bâtiment, c'est-à-dire moi. Dans les fonctions écologiques de la biodiversité, il y a comment ça m'entretient. Ça, c'est le premier endroit où aujourd'hui on n'entretient pas assez cette diversité. Et finalement, ça nous donne les maladies de la modernité qui affectent un Français sur quatre aujourd'hui. Et qui abîment sa vie et sa longévité. Mais il y a mieux. Vous mentionniez un autre microbiote souvent méconnu, qui est le microbiote culturel, celui qui n'a pas été accrété dans notre évolution d'être vivant, mais que nous avons accrété culturellement par nos pratiques. Or, aujourd'hui, nous le nions. Quand nous faisons des produits au lait pasteurisé, où on réintroduit un ou deux ferments pour faire le produit, on obtient des choses qui ressemblent à des fromages, et qui sont d'ailleurs, le goût est prédictible, ça peut paraître plus agréable. Mais nous perdons de la diversité aromatique, et nous perdons surtout une partie des fonctions de ces aliments autrefois fermentés à la hussarde, c'est-à-dire avec les microbes qu'il y avait dans le lait, avec les microbes de l'environnement de la ferme. C'est vrai qu'il y avait des risques de contamination par la listeria, mais les grands scandales qu'on a eus sur les produits laitiers ou les pizzas qui étaient contaminées, elles étaient faites de façon stérile. Pourquoi ?
Bien sûr, sur les fromages, ce sont des fromages pasteurisés, en majorité, qui ont abouti à des problèmes.
La France,
des
grand pays de fromage, n'a plus que 10% de fromage au lait cru, alors que la Suisse est encore à 70%. Il faut se poser des questions. Mais au-delà du patrimoine culturel et du goût, il y a cette idée que, certes, quand vous stérilisez, que vous inoculez, vous savez ce qui va se produire, mais ça n'empêche pas, justement, ça ne fait pas assez écran, il n'y a pas assez de diversité pour faire écran à l'installation de maladies. Et donc, bien sûr, vous ne risquez pas d'hériter d'une maladie qui vient du pis de la vache, c'est sûr, mais d'un autre côté, vous avez des aliments fermentés qui, aujourd'hui, est une production d'aliments où il n'y a plus assez d'occupants pour empêcher les invasions par des indésirables. Et si vous regardez bien tous les grands problèmes de rappel de produits pour des contaminations microbiennes, ils sont produits de façon stérile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'utiliser la biodiversité comme écran. On pense qu'en détruisant toute la biodiversité, on va y arriver. Ben, on a quand même des problèmes. Il vaudrait mieux reprendre le problème à zéro et essayer d'optimiser les façons de contaminer nos aliments avec des microbes bénins, ce qu'on a toujours fait quand on fermente du fromage, du saucisson, du beurre, tout ça c'est fermenté, ou de la choucroute, parce que ça c'est aussi une façon de faire écran, mais en plus, je vais vous dire un truc, ça fait des vitamines. Ah bah oui, parce que ces microbes-là, quand vous allez les digérer vous, ils vont vous amener des vitamines qu'il n'y a plus dans les aliments que vous avez conservés par ailleurs. Il n'y a plus de vitamines du lait dans du fromage, il y a celle des microbes. Donc en plus, il y a vraiment des outils. Il faut revenir sur la biodiversité comme outil, je pense.
Vous dites on peut revenir à, il faut revenir à zéro, mais est-ce qu'on peut revenir à zéro ? Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans la destruction de la biodiversité et même culturellement dans l'absence de réflexion sur ce qui nous entoure ?
Alors, sur la biodiversité, on vit une extinction aujourd'hui de diversité qui n'est pas la première. Et alors là, je le dis dans le livre, la biodiversité, elle va survivre à celle-là comme elle a survécu au précédent. Les météorites qui ont tué les dinosaures, par exemple, ou la crise du Permien qui a tué 95% des espèces. La biodiversité est un processus qui, par des mutations, par l'évolution, se régénère tout le temps. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'à l'échelle humaine, il y a des choses qui sont en train de disparaître. Alors, l'extinction actuelle ne fait que commencer. On a perdu en gros 10% des espèces. Ce qu'on perd surtout, c'est le nombre d'individus qui chutent. On a perdu 70% des vertébrés, 85% des animaux marins depuis 50 ans. Et ça, c'est de la diversité génétique qu'on perd. Aujourd'hui, c'est une forme de diversité à laquelle on n'est pas sensible, c'est la diversité génétique qui disparaît. Avec elle, d'ailleurs, aussi la possibilité d'avoir des individus adaptés aux conditions de demain.
Oui, des hybridations,
Oui, et donc on perd la résilience des espèces. Mais pour l'instant, le verre est encore à moitié plein. Et il est encore temps de se reprendre parce qu'on a encore de la diversité. Vous voyez, par exemple, dans les sols de France, on dit qu'ils sont morts. C'est pas vrai. Il y a encore tous les microbes. Un gramme de sol, c'est des milliers d'espèces de bactéries et un bon millier d'espèces de champignons. Les espèces sont toujours là. Simplement, le nombre d'individus a baissé et leur rôle pour aider à la fertilité des sols disparaît. Mais si on se reprend, en 2 à 10 ans, ça revient. Là où je suis inquiet, moi, c'est le côté culturel. Nous croyons tous à la chimie. Nous croyons tous à la technologie. Quand je viens avec une solution basée sur le vivant, en vous disant, tiens, on va installer une bestiole pour faire de la lutte biologique. Ou quand je vous dis, les antibiotiques aujourd'hui, il y a 5000 personnes qui meurent chaque année en France à cause des résistances aux antibiotiques parce qu'on n'arrive pas à les soigner. Mais on a une autre façon de soigner avec les virus qui rendent malades les bactéries. Dans ces cas-là, on me regarde avec un sourire en disant « Ah, il a un petit côté Castor Junior, lui.
»
Mais attendez, les solutions basées sur le vivant ont existé avant les solutions basées sur notre connaissance de la chimie et de la technologie. Je veux dire, nous avons fleuri dans un monde dont nous avons exploité la biodiversité. Les solutions basées sur le vivant ont existé bien avant les autres. Ce qui m'inquiète, c'est que culturellement, on ne croit pas à ces solutions et du coup, on voit l'érosion de la biodiversité comme une crise de la biodiversité au lieu d'y voir une crise de l'humanité et de sa survie.
Gilles.
Alors, culturellement, on parle peu de la biodiversité. D'ailleurs, c'est je trouve le premier élément moi qui me frappe et qui par lequel même vous commencez votre essai. Vous relatez une enquête qui a été faite par l'Office français de la biodiversité auprès des Français, dans laquelle une immense majorité d'entre eux dit qu'il en a entendu parler et une moitié dit que ils savent de quoi il s'agit. Et peut-être que si j'avais été interrogé, oui, j'aurais moi aussi répondu que je sais à peu près de quoi il s'agit. En réalité, après avoir lu votre essai, je dis que je ne savais pas grand-chose. Et je trouve la première vertu de ce livre, c'est une vertu de connaissance, de permettre au lecteur de savoir ce qu'est réellement la biodiversité, comment elle évolue, quelles sont les caractéristiques, vous les avez évoquées d'un mot, de la sixième extinction que nous commençons, quelles en sont les causes. Et donc, c'est vraiment en une heure, on ressort, je ne dis pas plus intelligent, mais en tout cas plus averti de ce qu'est, ouais, cet enjeu majeur. Je trouve que c'est un petit investissement, ouais, qui vaut le coup.
Cool.
Oui, c'est un livre qui n'est pas cher en plus.
Bon. Maintenant, je rebondis sur ce que vous évoquiez tout à l'heure pour faire le lien avec le sujet, oui, le dernier sujet par lequel on a terminé le duel avec Natacha, qui est celui des élections municipales. Vous avez parlé du mosaïquage des cultures, vous avez parlé des haies. Dans la partie plus rurale du pays, je voudrais que vous expliquiez ce que pourrait vouloir dire relier par des corridors l'idée de trame verte et bleue en France. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Et en zone, non pas en zone rurale, mais en zone urbaine, qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir des zones ennaturées?
Alors, et pourquoi c'est important? Oui, alors en fait, il faut laisser des espaces où les espèces ne sont pas contraintes ni par nos pesticides, ni par nos plastiques, ni par la production de bois ou de carottes ou de blé. Mmh. Il faut laisser des espaces en libre évolution de façon à ce que la biodiversité qui existait continue à pouvoir exister et qu'on puisse taper dedans, exploiter les ressources. Par exemple, des zones où les pollinisateurs prolifèrent, comme ça ils viendront déferler sur les champs à polliniser par ailleurs. Et il faut entre ces zones un maillage de corridors, c'est-à-dire d'espaces par lesquels les espèces peuvent se propager. Bah, les haies, c'est ça. Oui. Mais vous savez, c'est pas...
Les haies qu'on a beaucoup détruites.
Ben, 25 000 km par an, aujourd'hui, et on en replante 3 000, sachant qu'une haie, ouais, jeune n'a pas les fonctions d'une haie établie et qui a recruté toute la biodiversité qui l'aide à fonctionner contre l'érosion, contre la transmission des maladies ou pour la pollinisation.
Donc, je vous ai coupé.
Alors, revenons à ça. En fait, ce maillage-là, il va en ville aussi. Il ne faut pas faire que de l'agribashing. Hein. La biodiversité, c'est en ville qu'on la massacre le plus efficacement. Sauf si on commence à avoir des villes qui sont verdies. Alors ça, on sait que c'est bon pour la santé. Hein. On sait que chaque fois que vous vivez 350 mètres plus loin d'une zone de nature, vous avez 5% de risque de maladies neurologiques en plus. Alors, il y a des facteurs sociologiques, mais aussi un facteur tout bête qu'on est construit et sélectionné pour vivre dans la nature. Et cette nature en ville, comme il n'y a pas d'objectif de production, vous pouvez avoir des zones en libre évolution. Vous avez des paysagistes comme Gilles Clément qui ont théorisé des jardins en libre évolution, qui sont des jardins où il va y avoir de la biodiversité, ça va être très agréable pour les yeux, ça va être des zones qui vont être très bonnes pour la biodiversité, et ça va être des refuges aussi. Il faut qu'on construise un paysage où il y a une mosaïque, effectivement, de zones où on fait ce qu'on a à faire, mais en utilisant le plus possible la biodiversité comme moyen, notamment c'est l'agroécologie que j'évoquais tout à l'heure, je n'ai pas dit le mot, mais oui, c'est l'écologie pour faire de l'agronomie. Là, il n'y a plus d'hiatus entre produire et protéger. Et puis qu'on ait quelques zones en libre évolution, et dans les villes, il le faudrait. Mais aujourd'hui, non seulement nos villes ne sont pas vertes, mais en plus, souvent, les paysagistes pensent espèces introduites. Ils vont vous mettre des jolies magnolias, des jolies forsythias, au lieu de valoriser notre biodiversité indigène et de faire, finalement, de nos villes des sanctuaires de biodiversité verts et donc plus agréables à vivre. Et aussi, d'ailleurs, plus à même, en cas de précipitation forte, de, ouais, gérer les inondations.
Oui.
Parce que
oui, y a aussi l'épisode qu'on vient de vivre en France est largement liée à ce que vous nous racontez aussi, les haies arrachées, les eaux qui ruissellent,
exact.
Etc. Ouais.
Toute la gestion de l'eau en France, que ce soit effectivement la prévention des inondations d'une part, mais aussi le stockage de l'eau pour l'été, pour faire des îlots de fraîcheur en ville, par exemple, ou des meilleures récoltes, tout ça, ça passe par des gestions des sols avec moins de labour, moins de pesticides, justement grâce aux méthodes de l'agroécologie. Et ça, c'est une chose qu'il faut qu'on organise, parce qu'on va vers un climat 2050, moins 10% de précipitations estivales, même précipitations sur l'année. On va vers un climat où il faudra gérer des pluies plus fortes et des sécheresses estivales. Et bien là, si on a des îlots de nature aussi bien en ville qu'une bonne gestion des sols et des haies dans les champs, et bien on va être plus à même de gérer ce nouveau climat. C'est juste, en fait, une question d'outils. Et si on aime ses enfants, il faut absolument leur transmettre de toute urgence ces outils sur lesquels nous avons construit ce que nous sommes, nous.
Le problème, c'est que la loi d'agroécologie de 2014 de Stéphane Le Foll a été totalement démantelée et qu'elle prouvait qu'on pouvait aller vers quelque chose qui, à mon avis, était un progrès. Et bon, il n'y a pas des progrès et parfois des régressions, mais la question que je me pose, pour revenir justement à l'intervention du sénateur Duplomb, c'est, et puis à tout ce que vous dites sur la place de l'humain dans la biodiversité, est-ce que le problème, ce n'est pas de toute façon une question de démographie, c'est-à-dire que l'humain a besoin de la biodiversité, mais que plus les êtres humains se multiplient, et moins il y a de place pour cette biodiversité, et j'ajoute nos modes de consommation, parce que on peut faire des choses merveilleuses ici, mais si on continue à faire venir des produits qui ont été faits ailleurs sans aucune protection, on n'aura pas progressé.
Oui, mais alors ça, vous avez tout à fait raison. Simplement, la démographie est un suraccident. Aujourd'hui, le jour du dépassement de la Terre, c'est le jour où on a utilisé tout ce que la Terre pouvait produire, c'est pour l'humanité quelque part en août. Pour la France, ça se passe début mai. Donc l'histoire, c'est que, en fait, c'est aussi nos modes de consommation qui sont interrogés. Et si vous regardez le cas de l'artificialisation en France, par exemple, le remplacement de la nature et de la biodiversité de la nature par des villes ou des infrastructures de transport où il y a peu de biodiversité, surtout vu la façon dont elles sont conçues, eh bien, l'artificialisation galope à 3,7 fois la vitesse de la croissance démographique. C'est donc surtout nos modes de consommation et finalement notre vision du monde où nous ne voyons pas assez la nature comme une façon d'agir et le vivant comme un outil.
Petite question pour terminer, peut-être plus personnelle. Marc-André Sellos, justement, quand vous vous promenez dans la rue, vous, en ville ou à la campagne, qu'est-ce que vous voyez qu'on ne voit pas ?
Non, d'abord, j'ai toujours ma loupe sur moi. Donc je vois plein de choses parce que je change d'échelle. Or, la biodiversité, elle est souvent petite. Et vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il y a à voir quand on a une loupe sur une écorce ou dans une fleur. Voilà. Et ce que je vois surtout, c'est tous les endroits où on n'a pas convoqué la biodiversité, où du coup, ça marche moins bien. Pour l'écoulement de l'eau, pour le plaisir visuel, pour la chaleur quand il fait un peu chaud en été, ou tous les endroits où on s'est complètement planté. Regardez tous ces jardins où on a planté des arbres à la con. Parce que c'est des arbres introduits qui vivent assez mal ici, qui des fois introduisent d'ailleurs des maladies qui atteignent ensuite nos arbres. Je pense par exemple au frêne de Mandchourie qui introduit une maladie qui décime tous les frênes d'Europe. Mais c'est des arbres à la con, il n'y a rien qui se mange. Pourquoi est-ce qu'on ne plante pas des arbres dont les produits se mangent? Par exemple, je ne sais pas moi, des pommiers, même des ronces, des mûres. Pourquoi est-ce que nos jardins ne se mangent pas? Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, on est tellement loin des fonctions de la biodiversité que même là où on essaie d'en mettre un petit peu dans nos villes, on ne remplit pas toutes les fonctions. Moi, ce que je vois, c'est cette belle au bois dormant qu'est la biodiversité, parce que notre culture ne nous permet pas d'aller au-devant des services qu'elle nous rend, alors même que nous sommes cousus quotidiennement de ces services.
Magnifique conclusion. Ce verbe cousu, il m'avait marqué en lisant votre livre. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Marc-André Sellos. J'espère que cette émission sera très écoutée, partagée, notamment pour les plus jeunes, parce que ce qui manque, je crois beaucoup, c'est l'éducation à la biodiversité, et vous êtes un formidable pédagogue pour faire passer votre passion, et cette passion utile et nécessaire pour notre vie, à tous en collectivité et en tant qu'humain, l'humanisme au cœur de votre travail. Merci Gilles, et merci Natacha, merci à l'équipe du Grand Face à Face. Mathilde Clatt était à la préparation de cette émission, Marie Merrier à sa réalisation aujourd'hui. Tilaï Ravout à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour un Ancidate Clé avec Philippe Sands sur cette question sensible, comment juger les crimes de guerre. Cette conversation, vous pouvez déjà l'écouter en podcast sur l'appli Radio France.